Chapitre 27. Méchante dame. La femme avait dû arriver un peu après minuit, reconstitua-t-elle plus tard. Parce que c'était avant que Pryor revienne avec le deuxième sachet de crabes. Ils avaient vraiment de bons fruits de mer à Baltimore, et comme une descente lui ouvrait toujours l'appétit, elle l'avait convaincu de repartir en chercher. Gérald continuait de lui changer les patchs sur les bras. Elle lui servait son plus beau sourire niais, puis elle retirait la substance tranquillisante après son départ, avant de les remettre. Gérald finit par lui dire qu'elle devrait dormir. Il éteignit la lampe et baissa la luminosité de la fausse fenêtre jusqu'à obtenir un crépuscule rouge. Lorsqu'elle se retrouva seule, elle glissa une main entre le lit et le mur, trouva le taser dans le trou, dans la mousse. Elle s'endormit sans s'en rendre compte, la lueur rougeâtre de la fenêtre comme un coucher de soleil à Miami. Elle dut rêver d'Eddie ou du Hooky Greens, tout au moins d'y danser avec quelqu'un au 32e étage, parce que quand le fracas la réveilla, elle ignorait où elle se trouvait. Mais elle savait parfaitement comment sortir du Hooky Greens, qu'il valait mieux prendre l'escalier parce qu'il devait y avoir une embrouille. Elle était à moitié levée lorsque Pryor entra à travers la porte, littéralement, parce qu'elle était encore fermée quand il la heurta. Il la frappa à reculons et elle éclata en échardes et en morceaux de contreplaqué. Elle le vit se cogner contre le mur, le sol. Puis il resta immobile. Quelqu'un d'autre se tenait dans l'encadrement de la porte, rétro-éclairée depuis l'autre pièce, et elle ne distinguait de son visage que deux ovales de lumière rouge réfléchissant le faux crépuscule. Elle ramena ses jambes sur le lit et se recroquevilla contre le mur, sa main glissant vers « Ne bouge pas, connasse !» Cette voix avait quelque chose de très effrayant, parce qu'elle était trop enjouée, comme si balancer Pryor à travers cette porte lui avait fait très plaisir. « Je suis sérieuse, ne bouge pas !» Et la femme traversa la pièce en trois enjambées pour s'approcher de si près que Mona sentit le froid qui émanait du cuir de sa veste. « D'accord, » dit Mona, « d'accord. » Puis des mains l'attrapèrent, rapide, et elle se retrouva sur le dos, les épaules contre la mousse, et quelque chose, le taser, apparut devant son visage. « Où as-tu trouvé ça ?» dit Mona comme s'il s'agissait de quelque chose qu'elle avait déjà vu mais oublié. « C'était dans la veste de mon copain. Je lui ai emprunté. » Le cœur de Mona tambourinait dans sa poitrine. Ses lunettes n'étaient pas banales. « L'autre connard savait que tu l'avais ?»« Qui ?»« Pryor !» dit la femme avant de la lâcher et de se retourner. Puis elle donna des coups de pied à l'homme à terre, plusieurs d'affilée, fort. « Non !» dit-elle, s'arrêtant aussi brusquement qu'elle avait commencé. « Je ne crois pas que Pryor le savait. »
Gérald apparut alors devant l'entrée comme si de rien n'était. Sauf qu'il regardait avec regret la partie de la porte encore accrochée au montant, en frottant du pouce un morceau de stratifié brisé.
« Un café, Molly ?»«
Deux cafés, Gérald, » dit la femme en examinant le taser.
« Je le prends noir. »
Mona sirotait son café et considérait les vêtements et la chevelure de la femme en attendant que Pryor se réveille.
C'est tout au moins ce qui lui semblait. Gérald était encore parti. Mona n'avait jamais croisé personne comme elle. Elle n'arrivait pas à déterminer quel mode elle suivait, mais une chose était sûre, elle avait de l'argent. Une coupe de cheveux européenne, Mona en avait vu des comme ça dans un magazine. Elle était presque certaine qu'elle n'était plus en vogue, mais elle allait bien avec les verres oculaires, ses implants intégrés à la chair. Mona avait déjà rencontré un chauffeur de taxi de Cleveland équipé ainsi. Et elle portait une veste courte, marron, très foncée, trop simple au goût de Mona, mais de toute évidence, neuve, avec un épais col blanc en peau de mouton, ouvert sur un étrange habit vert couvrant sa poitrine et son estomac comme un gilet pare-balles, ce qu'il devait être, estima-t-elle, et un jean, taillé dans une sorte de velours gris-vert mousse, chaud et doux. Et Mona trouva que c'était la meilleure partie de sa tenue, qu'elle aurait pu en mettre un semblable. Sauf que les bottes gâchaient tout. Ces bottes noires qui remontaient jusqu'aux genoux, du genre motard, avec d'épaisses semelles en caoutchouc jaune et de grosses lanières sur le cou de pied, des boucles chromées un peu partout et un bout carré, affreux. Et où avait-elle trouvé cette couleur de vernis à ongles, ce bordeaux ? Mona croyait qu'il n'en fabriquait plus.
Qu'est-ce que tu mates comme ça ?
Vos bottes.
Et ? Elles ne vont pas avec votre pantalon. Je les ai mises pour tabasser Pryor. Par terre, Pryor gémit et commença à vomir. Mona se sentit un peu mal à son tour et elle annonça qu'elle allait aux toilettes.
N'essaie pas de te barrer.
La femme paraissait surveiller Pryor par-dessus le rebord de sa tasse en porcelaine blanche. Mais avec ses verres, il était difficile d'en être sûr. Elle se retrouva donc dans la salle de bain avec son sac à main sur les genoux. Elle se pressa de préparer sa dose, qu'elle ne broya pas assez fin et qui lui brûla le fond de la gorge. Mais comme disait parfois la nette, on n'avait pas toujours le temps de faire dans le raffinement. Et puis, ne se sentait-elle pas mieux, là ? Il y avait une petite douche dans la salle de bain de Gérald, qui paraissait inutilisée depuis longtemps. Elle regarda de plus près et vit de la mousse grise autour de la bonde et des taches qui évoquaient du sang séché. Lorsqu'elle revint, la femme traînait Pryor dans une des autres chambres en le tirant par les pieds. Il portait des chaussettes, mais plus de chaussures, s'aperçut alors Mona. Comme s'il s'était déchaussé pour dormir. Il y avait du sang sur sa chemise bleue et son visage était couvert de contusions. Lorsque vint la montée, Mona fut prise d'une curiosité pure et insolente.
« Qu'est-ce que vous faites ?»«
Je crois que je vais devoir le réveiller », dit la femme comme si elle était dans le métro et parlait d'un autre passager qui risquait de manquer sa station.
Mona la suivit dans la pièce où Gérald travaillait. Tout y était propre et blanc comme dans un hôpital. Elle la regarda installer Pryor dans une sorte de fauteuil de salon de coiffure avec des leviers, des boutons et tout ça.
Elle n'a pourtant pas l'air si forte, estima Mona. Mais elle sait par où il faut soulever.
La tête de Pryor tomba sur un côté pendant que la femme attachait une sangle noire autour de son torse. Mona commença à ressentir un peu de compassion pour lui, jusqu'à ce qu'elle se rappelle et dit.
C'est quoi ?
La femme remplissait une boîte en plastique blanc d'eau qui coulait d'un robinet chromé. Mona aurait aimé lui raconter et elle sentit son cœur s'emballer à cause de la Wheeze.
Il a tué Eddie, essayait-elle de lui dire, mais ça ne sortait pas.
Mais elle dut y parvenir parce que la femme rétorqua,
« Ouais, ça lui arrive de faire ce genre de truc parfois, si on le laisse faire. »
Elle jeta de l'eau vers Pryor, sur son visage et sa chemise. Il ouvrit les yeux et le blanc du gauche était tout rouge. Les dents métalliques du taser produisirent des étincelles pâles lorsque la femme l'appuya contre le vêtement bleu. Il hurla.
« Gérald !» dut se mettre à quatre pattes pour la sortir de sous le lit.
Il avait des mains froides et très douces. Elle ne se rappelait plus comment elle s'y était retrouvée, mais tout était calme désormais. Gérald avait un manteau gris et des lunettes noires.
« Tu pars avec Molly maintenant, Mona, » dit-il. Elle se mit à trembler.
« Je crois qu'il vaudrait mieux que je te donne un calmant. »
Elle s'écarta brusquement. « Non, ne me touche pas, putain !»
« Laisse tomber, Gérald, » lança la femme depuis la porte. « Il faut que tu y ailles, là !»« Pas l'impression que tu saches vraiment ce que tu fais, » dit-il.
« Mais bonne chance. »«
Merci. Tu crois que cet endroit va te manquer ?»«
Non. Je comptais bientôt prendre ma retraite, de toute façon.
Moi aussi. »
Puis Gérald partit sans même un geste à l'intention de Mona.
« Tu as des fringues ?»
lui demanda la femme.
« Habille-toi. On s'en va aussi. »
En enfilant ses vêtements, Mona s'aperçut qu'elle ne pouvait pas boutonner sa robe sur sa nouvelle poitrine. Alors, elle la laissa ouverte, passa la veste de Michael par-dessus et la remonta jusqu'au menton.